Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Mercredi 22 septembre, ça y est, c'est l'automne, la fin de l'été, c'était hier. On va recevoir Bruno, le gagnant, le grand gagnant. Enfin, personne dans cette émission n'a gagné autant que lui. On va le recevoir dans quelques instants.
On va essayer de connaître quelques secrets de l'émission.
Voilà, les 12 coups de midi, il a gagné quoi, 9 voitures. Oh, et cette semaine, il s'apprête à gagner, on peut le dire, 1 million d'euros.
On va voir, donc, on espère en tout cas.
L'émission qui cartonne le midi. Présenté par Jean-Luc Reichmann, on va en parler.
Vous êtes bonne dans les quiz ?
Pas du tout.
C'est vrai ?
Non, je sais pas. Non, ça dépend des sujets. Mais
vous êtes que vous inscrivez à la
voilà,
question pour un
oui,
champion ?
Absolument. Gagner un dictionnaire, j'adorerais. et puis à 10h30, on va revenir sur ce paradoxe français avec Denis Père, 6 millions de chômeurs, 2 millions de bénéficiaires du RSA, des pénuries de main-d'œuvre un petit peu partout. On en parlera avec lui à 10h30. Gilles, la question du jour.
La question du jour, ah ben en ce moment, hein, oui. On est dans la période des débats. À la télévision. Et puis, je pense qu'on va en avoir beaucoup. C'est la primaire écologique.
Écologique
et logique. Entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, qui sont les deux gagnants de la première partie de la primaire, ils vont s'affronter en débat sur LCI. Et on vous a demandé sur le compte Twitter de Sud Radio si vous allez regarder eh bien, cet affrontement. Pour l'instant, c'est plutôt
affrontement,
non.
Affrontement, ce débat, parce que c'est pas forcément... Oh bah. Ouais. Demain, il y aura sûrement un affrontement entre Zemmour et Mélenchon. Là, ils ont
on posera une question sur Zemmour et Mélenchon.
Ils ont été
demain.
Quand même dans le premier débat plutôt constructifs. Donc là, c'est vrai que c'est la dernière ligne droite, donc on va voir. Mais c'est un débat avant tout. Donc la question sur Twitter.
Est-ce que vous allez regarder ce débat ? Pour l'instant, c'est non. Avec une large majorité.
C'est l'esprit de contradiction de nos auditeurs. Allez, on passe au zapping.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Coucou le revoilou Valérie, qui revient ? C'est Nicolas Sarkozy qui revient sur le devant de la scène pour la sortie d'un nouveau livre. C'est un peu notre Yoda désormais, c'est le sage qui nous dit. Et Yoda a parlé, Macron a raison.
Moi je trouve que le président Macron a eu raison de réagir fermement. Entre alliés ça ne se fait pas, c'est inadmissible. Quand on est amis, ça donne des droits et ça crée des devoirs. Et agir comme cela, ce n'est pas admissible. Il faut en tirer les conséquences.
Alors c'est rigolo, hein, parce qu'on tape un peu sur les États-Unis, mais c'est la destination depuis que c'est ouvert. Il y a plus de 180% de voyages réservés pour Noël. Donc, on ira quand même aux États-Unis, hein, même s'ils ne veulent pas de nos sous-marins. Hier, Quotidien a sorti sa fameuse boîte à archives, vous savez, car le discours d'Emmanuel Macron sur les harkis a rappelé un autre discours d'un certain candidat en 2012. Ah ben, c'est encore Nicolas Sarkozy.
Quand on insulte un harki, on insulte la France.
Insulter un harki, c'est insulter un soldat français.
La République a alors contracté à leur égard une dette.
Nous avons une dette à l'endroit des harkis.
Pour vous et pour vos familles, ce fut un abandon.
Il faut que la République reconnaisse qu'il y a eu une forme d'abandon.
En fait, la seule différence entre eux, c'est la fin du discours.
Maintenant, pardonnez.
Je demande pardon.
Incroyable, hein, quand même. C'est ce soir, donc, on en parlait, et c'est notre question du jour, le grand débat entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Alors, évidemment, la victoire de Sandrine Rousseau a fait beaucoup parler. Et hier, Caroline Fourest, sur LCI, a expliqué qu'elle n'avait pas vraiment le même concept du féminisme.
Ils ont tendance à classer le monde en fonction de la couleur de peau, du sexe ou du genre, de façon binaire, et au point que, à la fin... vous êtes forcément un oppresseur si vous êtes un homme. Si vous êtes un homme blanc, n'en parlons pas. Vous êtes moins un oppresseur si vous êtes un homme noir. Et d'ailleurs, si vous êtes un violeur, on n'en parle pas. C'est le féminisme à géométrie variable. Et si vous êtes une femme, vous êtes victime, quoi qu'il arrive. Et vous êtes victime au point que vous ne devez même plus être traité à égalité. Vous êtes traité de façon particulière. J'entendais Alice Coffin expliquer que, en gros, Yannick Jadot devrait même pas maintenir sa candidature. Et devrait céder sa place parce que Sandrine Rousseau est une femme et qu'il est temps de céder sa place. Au nom d'une posture victimaire, quoi qu'il arrive, vous faites le jeu en face des sexistes, des misogynes, des antiféministes. On sait très bien ce que Éric Zemmour ferait d'une candidature de Sandrine Rousseau.
C'est brillante, Caroline Fourest, elle est chez David Pujadas.
Régulièrement.
Lundi soir.
C'est sur cet aveu. Dans cet aveu, le docteur Michel Simès a poussé un coup de gueule contre les médecins anti-vax et il n'y a pas été de main morte.
Leur chance aujourd'hui à ces médecins qui sont anti-vax ou qui font circuler de fausses informations, c'est que je ne sois pas président du Conseil de l'Ordre.
Ils seraient tous radiés.
Ah oui, je peux vous dire qu'ils seraient en commission de discipline immédiatement. C'est non seulement scandaleux, inadmissible, irresponsable. Alors, qu'un médecin ne se fasse pas vacciner, bon, mais qu'il fasse du prosélytisme en expliquant qu'il ne faut pas, que c'est dangereux, il y a des tas, ce sont des tarés, quoi, franchement.
Voilà.
Ça fait réagir.
Ah bah oui, traiter de taré les médecins anti-vax, je pense aussi, madame. Elle n'était pas connue des radios ni des télévisions, mais connue de tous les enfants. Claude Lombard est morte à 76 ans. Vous savez qui c'était, Claude Lombard,
non,
Valérie?
Non.
Oh, c'est celle qui chantait tous les génériques des années 80 et des années 2000. Mmh. Et oui, elle chantait entre autres Flo et les Robassons Suisses, Le Petit Lord, But pour Rudy et Les Snorkies.
Qui sont les Snorkies?
Vous n'avez pas l'âme nostalgique, Valérie, de ce dessin animé?
Non,
non,
pas
ça
du tout.
Parle pas.
Bah,
beaucoup, elle est morte,
beaucoup plus vieille.
Elle était
trop jeune. Voilà.
Bon, bah,
d'accord.
Je passerai...
C'est tout, c'est la fin.
Oui, c'est déjà la fin.
Oui,
c'est,
on ne s'en lasse pas.
Voilà,
on ne s'en lasse pas. On va recevoir tout de suite notre invité du jour, notre grand champion.
Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Bruno. Bruno, bonjour.
Bonjour, allez.
Alors, Bruno, c'est le recordman pour l'instant, en tout cas, des 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann pose tous les jours à midi des questions de culture générale. Vous êtes en train de devenir le plus grand gagnant de tous les temps de cette émission. Vous avez déjà gagné 9 voitures.
C'est ça, beaucoup de cadeaux, beaucoup d'appareils électroménagers. Des robots cuiseurs, des télés.
Alors vous en faites quoi? C'est la première question qui nous vient à l'esprit. 9 voitures, vous avez un grand garage, vous êtes dingue de voitures.
Alors, j'aime bien les voitures, mais pas assez quand même pour en garder 9. Ouais. Surtout que dans le lot, il y a quand même des voitures assez onéreuses.
Ouais.
Par exemple, des Ford Mustang qui coûtent 57 000 euros.
Ah
donc,
ouais.
J'apprécie pas assez les voitures pour...
Donc, vous les revendez?
Exactement. Il y en a déjà 3 ou 4 que j'ai déjà revendues. Mon cousin avait besoin d'une voiture. Du coup, voilà, il a pu en bénéficier d'une.
D'accord.
Et voilà, je pense que... Donc là, actuellement, je n'ai pas de travail. Donc je ne sais pas si ma vie professionnelle sera à Paris ou l'autre, ou ailleurs. Donc j'en garde une de côté, en me disant comme ça, si j'ai un travail en province, ça me servira toujours. Ouais. Mais oui, quoi qu'il arrive, il y a des cadeaux qui s'accumulent. Donc il faut les vendre petit à petit, faire des cadeaux.
L'électroménager aussi.
Exactement, parce que ça prend quand même pas mal de place.
Alors moi, je voudrais un robot. Non,
Robots pâtissiers.
Moi, je veux le robot aspirateur que vous avez gagné il n'y a pas longtemps.
Moi, j'aurais un robot pâtissier, voilà.
Bah,
on fera nos affaires après. Mais racontez-nous d'où vous venez, pour ceux qui ne suivent pas l'émission, connaître la trajectoire d'un candidat. Vous êtes jeune, hein,
30
vous, vous avez 30 ans. Donc comment on arrive, comment on se pose candidat dans un jeu télé comme celui-là?
En fait, alors, je suis originaire de Toulouse.
Ouais.
Et pour ma vie professionnelle, je suis venu à Paris. Donc déjà, je suis fan de jeux télé, de quiz, enfin les soirées Trial Pursuit, j'adore ça. Donc déjà, je connaissais évidemment l'émission que je regardais avec plus ou moins d'assiduité. Et en fait, donc, quand j'ai fait ma vie professionnelle à Paris, là, j'avais plus trop le temps de regarder l'émission hein, puisqu'on est rarement à midi devant sa télé. Et finalement, c'est quand il y a eu le premier confinement. Donc moi, avant le confinement, j'étais déjà rentré chez mes parents à Toulouse et mes parents regardent tous les jours l'émission.
Ouais.
Et en fait, c'est en regardant pendant le confinement que je me suis dit « Ah tiens, je m'y verrais bien ». Parce qu'en fait, avant, j'avais une
image de... Vous répondiez, vous jouiez et vous répondiez à toutes les questions.
On s'amuse à jouer en même temps. Et c'est surtout en termes d'attitude ou d'ambiance, on va dire. Parce qu'avant, j'avais l'image d'une émission où je me suis dit, oh, mais il y a trop de bruit, ça chante, ça danse tout le temps. C'est pas du tout pour moi, qui est peut-être une nature un peu introvertie. Et en fait, je pense qu'avec le confinement, bon, déjà la crise sanitaire, l'ambiance était un peu moins à l'euphorie. Et en plus, il n'y avait plus de public. Et du coup, je trouvais que l'émission était beaucoup plus calme, beaucoup plus zen. Et du coup, je me suis dit, ah là, je pense que je serai un petit peu plus à l'aise. Du coup, voilà, comme vous disiez, en regardant l'émission, en se disant, tiens, je réponds quand même à la plupart des questions, je me suis dit, allez, on candidate. Et au pire, on voit toujours les coulisses des sélections d'une émission, c'est toujours rigolo.
Ouais.
Et au mieux, bah, peut-être que je peux gagner un petit peu d'argent.
Vous êtes en train de détrôner Eric, qui avait gagné 921 316 euros. Christian Quesada, on s'en souvient, 809 000 euros. On avait reçu Véronique, qui avait près de 500 000 euros. Là, 1 million d'euros. Donc cette semaine, puisque ces émissions ont été enregistrées, c'est quand même pas mal. Hein,
ben oui, c'est surtout que quand on candidate et quand on commence l'aventure, évidemment, on ne se projette pas du tout en se disant « Allez, je vais faire 8 mois d'émission. » Voilà, moi, je me suis vraiment dit « On prend les émissions les unes à la suite des autres, on voit jusqu'où ça nous mène. » Et en plus, j'ai eu un mal pour un bien, on va dire, c'est qu'il y a eu un plan dans mon entreprise.
Puis, vous avez été viré.
Exactement.
Vous étiez licencié par Eurosport.
Exactement, en plein.
Qui était plus le groupe TF1. Mais qui
oui, oui. Moi, je n'ai jamais connu TF1. Quand je suis rentré à Eurosport, ça appartenait déjà à Discovery, le grand groupe américain. Et en effet, il y a un plan de sauvegarde de l'emploi où j'en fais partie. Et donc, finalement, c'est un mal pour un bien, parce que les tournages, ça prend quand même beaucoup de temps. On tourne du lundi au jeudi, 5 émissions par jour. Donc, voilà, il y a des mois entiers où je travaillais que le vendredi, puisque je posais du lundi au jeudi. Et en plus, qu'on peut perdre à tout moment, on ne peut pas se projeter.
Vous êtes fait virer. Donc, votre patron, il ne veut pas être très content, effectivement.
Après, de toute façon, c'était un gros plan. Il y avait 80 personnes qui devaient partir. Et...
C'est quoi les qualités, vos qualités? Comment vous êtes arrivé là? Vous avez une connaissance incroyable, il y a de la chance, c'est quoi?
Bah, c'est un peu tout, de toute manière. Je pense que déjà, il faut avoir des bases dans tout. Ouais. Parce qu'aussi, l'avantage de cette émission, c'est qu'elle aborde tous les sujets. Ça peut vraiment y avoir des questions mythologie, histoire, littérature très poussées. Et on a aussi des questions people, séries télé. Donc, c'est vraiment un spectre très large. Donc, il faut avoir au moins des bases dans tous les domaines. Même si on n'est pas expert, au moins avoir des bases dans tous les domaines. Et après, je pense que c'est plus un rapport, on va dire, psychologique, le rapport à la pression, à l'émotion, puis aussi à la fatigue. Et donc, voilà, je pense que très vite, il faut réussir à prendre un rythme par rapport à la fatigue physique et psychologique, bien gérer la pression.
Enfin, il faut répondre aux questions quand même aussi. Il faut avoir les réponses.
Quoi qu'il arrive. Mais je pense que plusieurs fois, des candidats en face de moi étaient peut-être meilleurs, plus cultivés. Ouais,
mais le fait d'avoir suggéré cette pression...
Mais il y a des caméras braquées sur nous, il y a de la musique. Quand il y a le chronomètre qui s'active, tout de suite, on est un peu perdu. Et je pense que c'est peut-être aussi un de mes avantages, c'est que j'arrive à rester zen, calme, détendu, à me dire « c'est qu'un jeu, je perds, c'est pas grave ». Donc finalement, du moment qu'on s'enlève toute la pression, ça se passe assez bien.
Alors, mais est-ce que on sait très bien qu'il y a beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, et une des critiques, c'est est-ce que la production vous favorise pas, parce que plus il y a un champion, plus on fidélise les téléspectateurs. Donc, est-ce que vous dites pas que les questions
on vous donne
vous
les
sont...
réponses avant, c'est
non,
ça
non, que les questions sont plus faciles, parce que au bout évidemment de 200 émissions, on connaît ces domaines où il est doué. Donc, qu'est-ce que vous pouvez répondre à la production va tout faire pour vous gagner le million de toute façon.
En fait, déjà, alors de la triche, ça c'est sûr qu'il n'y en a pas, dans le sens où j'ai jamais d'oreillette, je reçois jamais les questions en avance, elles ne sont pas marquées sur mon écran, donc de la triche, c'est sûr que non. Après, je pense qu'il y a, on va dire, le champion a des avantages. Donc, est-ce qu'on appelle ça des avantages ou du favoritisme? Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est la mécanique de toutes les émissions à champion. Parce que je pense que dans toutes les émissions, en vrai, personne ne peut tenir 230 émissions sans être vraiment avantagé. Et en effet, dans par exemple les 12 coups de midi, on sait que les premières questions que j'ai, moi, ce sont des questions de culture générale, alors que les autres ont des questions sondages, des questions anecdotes, donc forcément moins faciles à trouver. Mais après, j'ai envie de dire, voilà, ça fait partie de la mécanique du jeu. Dans tout le monde veut prendre sa place, ils peuvent quasiment choisir leur adversaire, leur donner des thèmes. Comme je dis,
Et puis pour ceux qui regardent l'émission, vous êtes rarement choisi pour être. Lorsqu'ils sont en rouge, pour ceux qui ne regardent pas, ils doivent choisir un candidat pour l'affronter. Vous êtes presque jamais choisi par les autres candidats parce que vous leur faites peur.
C'est plus ça, en fait, qui fait que les champions durent très longtemps. Et ça, pour le coup, la production n'a vraiment rien à voir avec eux.
C'est la mécanique.
C'est voilà, les gens, en effet, lorsqu'on vous dit qu'il y a un maître de midi qui est là depuis 100, 150 émissions, vous vous dites qu'il a sûrement un certain niveau. Donc je vais défier les autres. Et donc voilà, juste mécaniquement, le fait d'être jamais défié en duel, on a moins de risques de partir, puisque c'est quand même le principal moment où on est mis en danger. Donc en fait, voilà, je pense que c'est plus, en effet, les autres candidats qui ne me défiaient quasiment pas, qui font que forcément, je ne pars pas, parce que si je suis jamais mis en danger, je risque pas de partir.
Mais vous bûchez, vous travaillez ?
Ah oui, tout à fait, tous les soirs. Quand je ne suis pas trop fatigué, je me fais des fiches, déjà, de culture générale, sur des thèmes basiques, par exemple les films de Funès, de Belmondo, les pièces de Molière. Je me dis au moins les grands thèmes de la culture française.
Et
le cinéma aussi, parce qu'il y a plein de classiques que je n'ai pas vus. Et au moins, c'est une révision sympa, parce qu'on n'a pas l'impression de bosser. Je me dis, de regarder un film de Funès ou de Belmondo que moi, je n'ai jamais vu, en me disant, pour le coup, ça, c'est vraiment de la culture TF1, ça peut tout à fait tomber comme question. Et puis, comme je disais, je suis fan de jeux télé. Donc, outre les 12 coups de midi, tous les jours, je regarde en replay. Tout le monde veut prendre sa place. Et j'ai un petit cahier où, quand il y a une question dont je ne connaissais pas la réponse, je note,
mais
etc.
Non.
Donc, voilà.
Ouais, c'est du boulot. Hein,
c'est devenu un métier.
Ça a changé quoi dans votre vie, hormis le fait que vous tournez beaucoup, 234 participations. Les gens vous reconnaissent dans la rue? Vous recevez des mails, du courrier?
Oui, pas mal. Au début, pas trop, puisque quand j'ai commencé l'émission, la situation sanitaire était... pire qu'avant. Donc, on était obligé de se promener avec le masque dans la rue, etc. Ah. Donc, il fallait vraiment être très physionomiste pour me reconnaître. Maintenant, dans la rue, on n'a plus le masque. Donc, ça m'arrive, oui, quasiment tous les jours que des gens m'arrêtent. Mais c'est toujours bienveillant. C'est ça qui est bien. C'est que, enfin, vraiment, les gens... Souvent, on me dit « ma mère ou ma grand-mère vous adore. Ouais. Est-ce que je peux faire une photo pour ma grand-mère, etc. » Donc, c'est toujours avec plaisir. Donc, c'est sûr qu'on va dire que ça a changé un petit peu le quotidien, parce qu'évidemment, ça n'arrivait pas. Mais voilà, je ne suis pas au niveau de Madonna. Il n'y a pas des gens qui attendent devant chez moi.
On ne vous envoie pas des petites culottes, puisque vous parlez de Madonna.
Ah non, j'ai... non.
Mais qu'est-ce qu'on vous a envoyé ? On vous envoie des gâteaux, des choses ou pas ?
Alors, les gens n'ont pas mon adresse. Donc, souvent, ils envoient du courrier en démol ou à TF1, qui ensuite, ils font un tri. Ils lisent avant et ensuite ils me font parvenir.
Tout ne vous arrive pas.
Alors, je ne sais pas si je reçois par exemple des lettres d'insultes. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais en tout cas, évidemment, TF1 ou Endemol
ne vous les transmet pas.
Ne me les transmet pas.
Que le côté sympa des choses.
Ils envoient que le positif. Et donc, c'est vrai que parfois, il y a des gens qui peuvent envoyer des photos ou des petits. Souvent, si les gens ont un talent, ils font des petits dessins, des petites peintures, des portraits. Donc, c'est toujours bienveillant, super gentil. J'essaie de répondre à tout le monde, mais c'est vrai que je commence à être un peu noyé sous les messages. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde.
Donc,
j'essaie.
A priori, vous allez gagner, on peut l'imaginer dans la semaine, le million. Vous pouvez continuer. En fait, il n'y a pas de limite.
Il n'y a pas de plafond dans l'émission. Après, c'est vrai que je pense qu'il y aura quand même, on va dire, un petit choc psychologique. Puisque là, comme on disait, j'ai tous les records. J'ai même le record de victoire en individuel au monde dans un jeu télé.
Oui, parce que c'est un jeu argentin, hein, à
exactement,
la base. Ouais.
À la
base. Mais là, dans un jeu.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'un candidat seul dans le monde n'a jamais tenu autant d'émissions. Et là, j'ai du coup le record de gains en France. Bon, après, les records de gains dans le monde, c'est totalement inaccessible parce qu'aux États-Unis, il y en a qui gagnent 10 millions. Et du coup, c'est vrai qu'à la fin, on se dit, là, j'ai ce record du million qui me fait tenir en disant, ça serait bête de perdre juste avant, il faut aller jusque-là. Et là, une fois que tu dis, ça y est, j'ai tous les records, maintenant, il se passe quoi ? Je viens juste à l'émission pour tenir le plus longtemps possible, mais sans objectif.
Alors, pour nos auditeurs, qu'est-ce que vous avez déjà touché ? Vous touchez l'argent à fur et à mesure ? Comment ça se passe ? Comment vous touchez vos gains ?
En fait, c'est un peu un truc comptable. On est payé, je ne sais plus comment ils disent, genre à 90 jours fin de mois. Donc, en fait, les gains des émissions tournées, par exemple, en janvier, genre février, mars, avril, je pense qu'en avril, je touche le chèque de ce que j'ai gagné en janvier, en mai, de ce que j'ai gagné en février.
Ce sera des gains cumulés pour une valeur d'un million d'euros.
Donc, au final, c'est bien, parce que ce n'est pas comme un loto où d'un coup, on reçoit une énorme somme d'argent et on est en mode, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'en fais ? Où est-ce que je la place ? Là, tous les mois, il y a une rentrée d'argent. Ça fait comme un salaire, donc un très bon salaire. Mais au moins, ça permet un peu d'organiser sa vie. Des
et vous faites quoi alors de cet argent ? Vous le dépensez ? Vous avez claqué Vous n'êtes pas acheté une voiture parce que,
Non, il n'y a pas de montre, il n'y a pas de bijoux. Moi,
vous avez quoi,
des diamants.
C'est quoi votre petit coup de folie ?
En fait, tout ce que... Moi, je suis fan, par exemple, de jeux vidéo. Et en fait, finalement, dans les étoiles, j'ai déjà gagné toutes les consoles que
la
je voulais.
PS5, vous avez une
j'ai gagné la PS5.
Ouais. Vous n'avez pas eu besoin de l'acheter.
Télé que je voulais, voilà. Donc, c'est plus, je me dis, des voyages, se faire plaisir sur des voyages. Là, par exemple, avec mon cousin et sa copine, on doit aller à Orlando, faire juste les parcs d'attractions pendant 2 semaines, puisqu'on est fan de parcs d'attractions. Donc, c'est le genre de truc, on se serait toujours dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre autant d'argent juste pour des parcs d'attractions
Mais là, on se dit, allez, on peut se faire plaisir. Large, Donc, votre cousin et sa copine, mais vous, non, pas, vous êtes tout seul.
Vous êtes
une âme à prendre ?
Moi, je suis célibataire. D'accord. Et que de toute façon, là, l'émission prend tellement de temps et d'énergie que j'ai vraiment pas
Vous êtes dragué, non ? J'imagine, sur les réseaux sociaux.
Il y a toujours des propositions. Mais non, là, de toute façon, j'aurais vraiment pas le temps et l'énergie de
pour
faire
avoir
un
une
date,
relation.
Pour avoir un coup de foudre.
Ah oui, c'est vrai. Après, oui, si le grand
peut-être
amour
Orlando,
arrive,
peut-être Orlando.
La belle américaine.
Pourquoi on vous a surnommé Fifou Dingo ou Fifou Dingo ?
En fait, c'est un petit tic de langage que j'avais. Mes collègues se moquaient souvent de moi. Quand quelque chose était négatif, moi, je disais, mais ça, c'est vraiment pas fifou dingo. Je sais pas d'où c'est venu. Au début, je devais dire, c'est pas fou, c'est pas fifou. Et puis, j'ai fini par dire, c'est pas fifou dingo. Et quand Jean-Luc a demandé, vous avez un surnom, parce qu'il aime bien que les candidats aient un petit surnom, ça fait quand même moins protocolaire. Et du coup, j'en trouvais pas. Il m'a dit, vous n'avez pas un tic de langage. Et j'ai dit, il y a ça que je dis, mais plus à la négatif, en disant, c'est pas fifou dingo. Et il a dit, mais ça, c'est génial. Ça vous va si on le fait comme surnom ? Et je dis, oui. Et du coup, maintenant, ça reste. J'ai plein d'amis maintenant qui se mettent aussi à m'appeler Fifou.
Est-ce que vous avez le trac ? Est-ce que vous avez peur, parfois, de...
Peut-être, là, les premières fois, là, au bout de 230 émissions... maintenant, je le dis, c'est limite un travail. Quoi. On arrive, on voit presque tous les collègues.
Vous êtes copains avec les gens.
T'as passé un bon
régie,
week-end, la femme, les enfants, tout ça. Mais la première fois, forcément, on se dit, on fait une émission qui est vue par presque 4 millions de téléspectateurs. Il y a des caméras braquées, etc. Donc, quoi qu'il arrive, il y a un petit trac. Après, c'est vraiment une émission de divertissement. Oui, le but est de s'amuser.
Il est sympa, Jean-Luc Reichmann.
Oui, il est là pour nous mettre à l'aise de toute façon, donc ça se passe très
vous
bien.
Vous disiez que vous regardiez Tout le monde veut prendre sa place. Vendredi, on reçoit Laurence Boccolini, génial, qui sera notre invité en direct. Qu'est-ce que vous pensez du changement de Laurence Boccolini et de Nagui?
Bah, moi, j'aime beaucoup Laurence Boccolini. Je la trouve ultra. Je trouve qu'elle a un capital sympathie énorme. Elle est vraiment souriante, bienveillante, etc. Là, quand Samuel, son champion, est parti, on voit qu'elle était vraiment émue. Enfin, c'était. Elle, voilà, elle fait, c'était pas fin, donc je pense que c'est en même temps quelqu'un de sensible.
Vous êtes conscient que vous lui enlevez plein de téléspectateurs.
J'espère que. Je suis maintenant un peu les audiences, ouais, histoire de savoir. Donc j'ai l'impression qu'en effet, les 12 coups de midi se portent un peu mieux, que tout le monde veut prendre sa place.
Vous les suivez au quotidien, les audiences?
Oui, je suis sur la page dans des molles, etc. D'accord. Maintenant, j'arrive à repérer. C'est quand vrai on fait plus de 30% d'audience.
D'accord.
Quand je vois qu'on est à 37-38% sur les 4+, je me dis, ah là, va y avoir des petits confettis, etc.
Et vous pourriez postuler pour un autre jeu, justement? Est-ce que vous l'envisagez?
Déjà, je pense que tout le monde veut prendre sa place, c'est pas possible, parce que ça serait quand même un peu malvenu que le mec a fait 200 émissions en face, a essayé la concurrence ensuite. Déjà, par respect pour Endemol TF1.
Vous connaissez les paroles, peut-être, non?
Alors, je chante très mal. Je suis pas mal en variété française, mais je chante très très mal. Ce serait pas un cadeau à faire aux téléspectateurs. Non, pour l'instant, j'arrive pas à me projeter sur autre chose, parce que ça demande tellement de temps et d'énergie que je pense que quand ça va s'arrêter, j'aurai besoin d'une phase de coupure. Voilà, reposer.
Mais vous allez faire quoi comme métier dans 6 mois?
Je sais pas, parce que du coup j'ai perdu mon travail. Là, l'avantage, c'est que j'ai gagné plusieurs années de salaire.
Donc,
quoi qu'il arrive, je peux avoir le luxe de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que j'aime faire. Déjà, il faut placer l'argent, le vendre un peu certains
là
cadeaux.
Là aussi,
etc.
Vous avez eu beaucoup de propositions, j'imagine. Non, il y a des
la banquière m'a très vite appelé, conseiller patrimoine de la banque.
Bien sûr.
Que j'avais pas rencontré en 29 ans d'existence. Et puis là, ils se sont dit, mais au fait, faudrait qu'on se rencontre.
Bien sûr.
Évidemment.
Et puis là, donc, dans la semaine, théoriquement, le million sera gagné et on continuera de vous voir pendant un petit moment, je pense. Merci Bruno d'avoir été avec nous tous les jours, donc du lundi au dimanche à midi.
Absolument.
Et on est ravis avec Jean-Luc Reichmann. On se retrouve, nous, dans un instant pour l'œil de l'expert.